Bienvenue tout le monde pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument. On va plonger dans les entrailles de l'intelligence artificielle.
Un très gros morceau, ouais. On en entend parler partout en ce moment.
Partout, exactement. Mais l'idée de notre exploration du jour, c'est vraiment de démystifier tout ça, de retirer le vernis un peu magique pour regarder la plomberie, en fait.
C'est ça. Et pour nous guider, on s'appuie sur un ouvrage super intéressant qui vient de paraître, écrit par Olivier.
Un livre qui est d'ailleurs pensé spécifiquement pour les professionnels de l'éducation. Donc le but, c'est de comprendre pour pouvoir transmettre.
Voilà. Et l'auteur commence par planter le décor avec une distinction historique qui est vraiment fondamentale. Il sépare l'IA en deux grandes familles.
Ouais, parce qu'on a souvent l'impression que ChatGPT est sorti de nulle part, mais l'IA, ça fait des décennies qu'on bosse dessus.
Complètement. Historiquement, on a d'abord eu ce qu'on appelle l'IA symbolique. C'était surtout dans les années 80, avec les fameux systèmes experts.
L'époque où on codait tout à la main, quoi.
C'est exactement ça. C'est une logique très hypothético-déductive. En gros, un humain programmait des règles ultra strictes, du genre si telle condition est emplie, alors tu fais ça.
Des arbres de décision hyper rigides, en fait.
Voilà. Mais le gros problème de cette IA symbolique, c'est que le monde réel, il n'est pas rigide du tout.
Bah non. Si tu dis à la machine de chercher un chat et que ta règle c'est cherche deux oreilles pointues et une queue,
Ouais, et que le chat est en boule et qu'on voit pas sa queue, le système plante, il comprend plus rien.
il s'effondre. Ouais. Ce qui peut pas anticiper toutes les exceptions de la vraie vie. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande famille d'IA, celle qui domine aujourd'hui et qui a tout changé, l'IA connexionniste.
Et là, le changement de paradigme, il est total. C'est plus du tout la même logique.
L'IA connexionniste, elle a zéro règle préétablie. On ne lui donne pas de manuel d'instruction.
Rien du tout. Elle fonctionne par induction. En fait, on lui donne juste des montagnes de données et c'est à elle de deviner les règles toute seule.
En faisant des essais et des erreurs, des milliards de fois. Mais pour bien comprendre comment cette IA accomplit des trucs aussi dingues aujourd'hui, le document nous ramène à la base de la base.
À l'électricité.
Ouais, à la réalité physique. Imaginez que vous survolez une métropole géante la nuit avec des millions de lumières. Ça a l'air vivant, conscient même. Mais si on zoome sur un seul lampadaire dans une rue.
C'est juste pas un bête interrupteur.
Exactement. Il est allumé ou il est éteint. Il n'y a pas de magie.
C'est une super métaphore. Le socle de toute cette architecture, même pour les supercalculateurs de Llama ou ChatGPT, ça reste le transistor.
Un composant électronique minuscule.
Ouais, qui connaît que deux états. Le courant passe, c'est 1, ou le courant est bloqué, c'est 0. Le fameux langage binaire.
D'ailleurs, l'auteur utilise une anecdote super parlante dans le livre avec la lettre O. Le O de son prénom, Olivier.
Ah oui, quand la machine doit afficher un O, elle voit pas un rond sur un écran.
Pas du tout. Elle active un code binaire précis. C'est 01001111.
Ce qui vaut 79 en système décimal.
C'est ça. Donc concrètement, dans le processeur, tu as 8 petits interrupteurs qui se sont mis dans une position exacte. Éteint, allumé, éteint, éteint, allumé, 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 allumé.
C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que n'importe quelle œuvre numérique, que ce soit une vidéo YouTube ou une réponse de l'IA, à la fin, c'est juste cette même succession de petits interrupteurs.
C'est vertigineux. Mais du coup, la vraie question, c'est comment on passe de 8 pauvres interrupteurs à un modèle capable de nous écrire un poème?
Et c'est là qu'on entre dans la question de l'échelle des données. C'est impossible à visualiser pour un cerveau humain.
Les sources donnent des chiffres complètement fous là-dessus.
Ouais. Aujourd'hui, l'humanité génère un zétaoctet de données tous les 3 jours.
Un zétaoctet, faut vraiment s'arrêter là-dessus. L'anecdote du livre pour essayer de se représenter ça est géniale.
Vas-y, rappelle-la-moi.
En gros, si un octet, donc nos 8 petits interrupteurs de tout à l'heure, si un seul octet équivalait à une seconde, un seul zétaoctet représenterait environ 2300 fois l'âge de l'univers.
Ah ouais, c'est colossal.
Et on produit ça tous les 3 jours. C'est un océan d'informations.
Sauf que, et c'est un point clé de l'analyse, l'IA ne fait pas que stocker tout ça bêtement. Elle distille.
Elle compresse l'information en quelque sorte.
Voilà. Le document prend l'exemple d'un modèle ultra-puissant comme Llama 3. Il s'est entraîné sur 15 téraoctets de données. C'est énorme, mais c'est rien par rapport à un zétaoctet.
C'est une goutte d'eau.
Et le plus fascinant, c'est qu'une fois entraîné, certains modèles plus petits tiennent sur quelques gigaoctets seulement.
Ça prouve bien qu'il n'y a pas de copier-coller. Si l'IA recopiait tout Internet, elle pèserait des millions de téraoctets.
Exactement. En fait, elle mémorise pas les données. Elle mémorise les liens statistiques entre ces données. C'est la base du machine learning.
Cette fameuse logique inductive. C'est un peu comme l'exemple des arbres dans le livre.
Ouais, où on donne à l'algo une liste avec le diamètre du tronc de plein d'arbres et leur hauteur.
L'ordinateur sait pas ce qu'est un arbre. Il sait pas ce qu'est un centimètre non plus. Il trace juste une courbe mathématique pour relier ces chiffres.
Et après, si tu lui donnes un nouveau diamètre, il regarde sa courbe et il devine la hauteur.
Et comment il fait pour tracer cette courbe au début ? Ses premières tentatives doivent être complètement à côté de la plaque, non ?
Ah bah au début, il est nul. Et c'est là qu'intervient la magie de la rétropropagation.
La rétropropagation, oui. Le mot fait peur, mais en fait, c'est hyper logique.
C'est juste l'apprentissage par l'erreur. L'IA se trompe, elle s'en rend compte, et elle remonte toute sa chaîne de calcul à l'envers.
Couche par couche.
Exactement. Pour trouver où elle a fait une erreur, et elle va ajuster le poids de la connexion fautive de façon minuscule, genre 0,001.
Un micro-ajustement.
Sur un seul essai, ça change rien. Mais multiplié par des milliards de données, ça sculpte un système hyper précis.
C'est ce qui s'est passé en 2012 avec Google Brain. C'est une anecdote incontournable du documentaire.
Ah oui, l'expérience avec les vidéos YouTube. Voilà. Ils ont branché une IA vierge sur 10 millions de vidéos YouTube sans aucune étiquette. Personne n'a dit à la machine « ça, c'est un chat ».
Apprentissage non supervisé total.
Ouais. Et en 3 jours, juste avec la rétropropagation, l'IA a commencé à repérer des contrastes, puis des lignes droites.
Avec courbes. Et elle a assemblé ça pour reconnaître des oreilles, puis des têtes.
Toute seule, elle a appris à reconnaître des chats, juste en cherchant des motifs statistiques redondants.
C'est brillant. Mais bon, ça c'est pour l'image. Les pixels, on arrive à comprendre comment ça s'imbrique. Mais pour le texte, comment une IA lit une phrase ?
Alors là, on rentre dans le domaine des tokens et des vecteurs.
Les fameux tokens. En gros, l'IA découpe les mots en petits fragments.
C'est ça. Mais le plus dingue, c'est ce qu'elle fait de ces fragments. Elle les transforme en vecteurs.
En adresses sur une carte géante ?
Imagine une carte spatiale en centaines, voire milliers de dimensions. Chaque mot reçoit une adresse précise sur cette carte selon son contexte d'utilisation.
Donc, comme les mots chat et chien sont souvent utilisés avec les mêmes mots, genre croquette ou vétérinaire,
bah, l'algorithme va les ranger dans le même quartier sur cette carte géante.
Et c'est ça qui permet de faire de l'algèbre sémantique. C'est ce concept mathématique complètement fou mentionné dans les sources.
Ah, le calcul de la royauté, c'est un classique.
Ouais, si on prend le vecteur du mot roi, qu'on lui soustrait le vecteur du mot homme, et qu'on lui ajoute le vecteur du mot femme,
le résultat mathématique pur tombe exactement sur les coordonnées du mot reine.
C'est bluffant. L'IA, c'est pas ce qu'est une monarchie ou le genre humain. Elle calcule juste des distances spatiales.
Mais du coup, ça soulève une vraie question.
Laquelle ?
Si c'est juste des maths, si c'est de la géométrie aussi précise, pourquoi on s'inquiète autant de la fiabilité de l'IA ?
Ah, la fameuse boîte noire. C'est le gros point noir de cette technologie.
Complètement. Le système fonctionne, on connaît l'architecture globale, mais avec ses milliards de paramètres, c'est impossible pour un humain de retracer le calcul précis.
Le document donne des exemples médicaux assez glaçants, genre une IA qui analyse une radiographie et qui détecte un cancer avec 92% de réussite.
C'est un score incroyable. Mais si le médecin lui demande pourquoi, quel est son raisonnement clinique ?
L'IA peut pas répondre, elle sait pas formuler d'explication. Elle dit juste, bah, statistiquement, ces pixels ressemblent au cancer que j'ai vu avant.
Et c'est pareil dans plein de domaines. Imagine un juge aux États-Unis qui utilise un algorithme pour évaluer le risque de récidive.
Ou une banque qui te refuse un crédit immobilier.
Ouais. L'algorithme dit non, mais personne, même pas le banquier, ne peut t'expliquer précisément pourquoi t'as été refusé.
L'algorithme a trouvé un schéma défavorable dans ses milliers de dimensions, mais c'est intraçable. Éthiquement, c'est un vrai casse-tête.
C'est clair. Bon. Toute cette mécanique technique, c'est fascinant pour nous.
Mais comment on transmet ça de façon simple dans une salle de classe ? C'est la mission du livre, après tout.
Exactement. Et je pense qu'il est temps de faire la bascule.
Tout à fait. Maintenant que vous savez vraiment comment ça fonctionne, oublions momentanément cette vérité glaciale et voyons comment l'expliquer à vos élèves.
L'auteur a prévu le coup. Il propose une vraie boîte à outils pour les profs, avec 3 analogies adaptées selon l'âge.
Ouais, commençons par le primaire, avec des enfants plus jeunes.
Là, on utilise l'image des millions de petits interrupteurs qu'on a vus au début et on la combine avec l'idée du dressage de chien.
Ah, j'adore celle-là. En gros, on explique aux enfants que l'ordinateur, on l'entraîne comme un chiot.
C'est ça. On lui montre 100 fois un chat et s'il aboie au bon moment, on lui donne une récompense. Une sorte de croquette numérique.
Et s'il se trompe, rien du tout. C'est super fort parce que sans utiliser de jargon technique, l'enfant comprend le système binaire et l'apprentissage par l'erreur.
Tout à fait. Ensuite, on passe au collège. Là, on peut aller un peu plus loin dans l'abstraction.
L'auteur propose l'analogie du bibliothécaire mosaïste aveugle.
Ouais, c'est pour expliquer la fameuse prédiction du mot suivant. Imagine un bibliothécaire qui a mémorisé tous les livres du monde, mais qui est aveugle.
Il pose juste la pièce de la mosaïque qui lui semble la plus logique statistiquement, juste à côté de la précédente, sans voir l'image globale.
Et pour expliquer comment il arrive à viser juste, on ajoute l'image du joueur de fléchettes les yeux bandés.
Ah, ça c'est pour la rétropropagation.
Exact. Le joueur lance, il rate, on lui dit « un peu plus à gauche, un peu plus à droite ».
Et à force de micro-ajustements, il finit par toucher le centre. C'est brillant.
Et enfin, on arrive au lycée. Là, on peut aborder l'aspect carte spatiale et boîte noire.
Ouais, on leur parle de cette carte géante où chat et chien habitent dans le même quartier.
Et pour la boîte noire, on reprend le joueur de fléchettes, mais cette fois, c'est devenu un champion du monde absolu.
Il met dans le mille à chaque fois. Mais si tu lui demandes d'expliquer la mécanique exacte de son poignet...
Bah, il peut pas. Il a tellement automatisé le mouvement que ça lui échappe. Hein.
C'est une métaphore parfaite pour le gouffre éthique qu'on évoquait avec les algorithmes médicaux ou bancaires.
Complètement. Le but de ces outils, c'est vraiment montrer que l'IA, c'est pas de la magie. C'est juste probabiliste.
Et du coup, ça désacralise la machine. Ça force à utiliser son esprit critique.
C'est la seule vraie défense, en fait. Parce que l'IA, comme elle cherche juste la probabilité mathématique, bah, elle hallucine très souvent.
Elle invente des faits avec un aplomb incroyable. Mais bon, l'humain aussi hallucine depuis la nuit des temps, par besoin de trouver du sens.
L'ouvrage donne l'exemple de la médecine ancienne. Avant, les médecins prescrivaient du mercure ou faisaient des saignées abusives.
Ouais, juste parce qu'ils voulaient absolument trouver une règle logique face à des maladies qu'ils comprenaient pas.
Ils cherchaient des liens de cause à effet là où il n'y en avait pas. C'est exactement le même mécanisme de biais.
Donc, le vrai remède face aux IA génératives, c'est la méthode scientifique. L'idée maîtresse du livre le résume parfaitement. Enseigner aux élèves à vérifier l'IA, c'est aussi leur apprendre à questionner leur propre certitude.
C'est une super conclusion. Ça remet l'humain au centre de l'équation.
Carrément. Mais avant de se quitter, je voulais rebondir sur une dernière réflexion tirée des sources qui ouvre un tout autre débat.
Un débat plus écologique, c'est ça?
Oui. On a beaucoup parlé de modèles géants sur des serveurs gigantesques et qui consomment une énergie folle. La piste évoquée pour l'avenir, c'est le edge computing.
Ah oui, l'idée d'avoir des petites IA qui tournent directement en local, sur nos smartphones, sans passer par le cloud.
Sur le bokeh, ça a l'air génial pour la sobriété numérique, mais le document pose une question hyper provocatrice. Si des millions de téléphones calculent tous en même temps dans nos poches...
Est-ce que le coût écologique est vraiment réduit par rapport à un seul gros serveur centralisé et ultra optimisé pour le refroidissement?
Bah voilà, le paradoxe est là. C'est une vraie question ouverte pour repenser notre rapport à la tech en classe. La solution n'est peut-être pas là où on l'attend.
C'est clair. Ça donne matière à réfléchir au-delà du simple code.
Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir partagé cette plongée avec nous. On se retrouve très vite pour décortiquer d'autres sujets passionnants.
Avec grand plaisir. À bientôt.